Séoul Blues, fin de Villemonde en Corée du Sud. Blues Séoul, après l'heure bleue, là-bas la nuit est déjà tombée. Après l'escale, Séoul à livre ouvert, littérature de cicatrices. Là-bas, second chapitre dans les sons, les musiques de la ville, la vie de Séoul. Seconde escale, Séoul, Villemonde. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
네, 안녕하세요.
고요한 아침의 나라는 1세기 전의 얘기입니다. 1세기 전의 얘기고 지금 한국은 제가
보기에는 La Corée, pays du matin calme.
10여 개 국가 중에서 가장 격동의 나라. 가장
Ça c'était il y a au moins 100 ans.
파도가 치는 나라고.
Aujourd'hui, la Corée est le pays du monde où il y a le plus de vagues, de changements, de mouvements.
Villemonde, Séoul, France Culture.
On vit dans un monde dominé par la culture occidentale. Mais la roue tourne. Un jour, les gens en auront peut-être marre de cette culture individualiste et égoïste, et alors les valeurs asiatiques reprendront le dessus. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de manifestations étudiantes à Séoul. Au cours d'une d'elles, un étudiant a été tué. Il y a une danseuse très célèbre qui est venue à son enterrement et a effectué un rituel ancestral qui s'appelle Salpuli, une danse qui sert à soulager l'âme du défunt qui a été meurtri. Mais ce qu'elle a surtout voulu faire, c'est critiquer. Une danse de protestation et de haine contre les responsables de la mort de ce jeune étudiant. Elle s'est présentée au cimetière sans maquillage, avec les cheveux ébouriffés et dans une tenue traditionnelle maculée de sang. C'était une performance à la fois contemporaine et archaïque pour dénoncer cette tragédie.
Séoul Blues par Alain Levkovitch, Céline Ters et Laurent Macchietti. Avec ses 11 millions d'habitants, Séoul, le plus grand centre urbain de la Corée du Sud, est désormais une ville-monde. En à peine 15 ans, elle a su devenir une des mégapoles asiatiques incontournables et la clé de voûte d'une économie régionale en pleine expansion. Un succès résultat d'une politique industrielle méthodique conduite depuis le début des années 60. C'est ainsi que les grands conglomérats, les chaebol, ont fini par prendre le pouvoir. Et ce sont les Samsung, LG et autres Hyundai qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps au pays des matins plus très calmes. Leur puissance de feu est redoutable. Et le succès mondial de Samsung viendrait valider la pertinence de ce modèle assis sur la puissance de ces dynasties industrielles. Et pourtant, à mesure que la Corée du Sud s'occidentalise économiquement et sociologiquement, elle s'interroge sur son avenir, comme gagnée par une forme de doute à l'européenne. Séoul est désormais un corps hyperactif qui ne dort pas, au rythme cardiaque toujours emballé. Comme si les forces telluriques des anciens animaient encore et toujours les modernes. Pali pali, comprendre vite vite, semble être désormais la devise de la cité. À Séoul, on ne vient pas pour admirer les lignes architecturales vertigineuses comme à Hong Kong, ni même goûter la quiétude des temples bouddhistes comme à Bangkok. On y vient pour s'abreuver de l'énergie insatiable d'une capitale animée par le futur et qui vit chaque journée comme une dernière chance. Entre exotisme et avant-gardisme, Séoul se projette sans jamais se retourner. Dans ces conditions, quelle place l'individu peut-il trouver, tandis que les souvenirs d'un passé douloureux ne cessent de hanter la psyché de toute une nation? Lee Sung-il, cinéaste.
Aujourd'hui, je vous ai emmené en fait à cet endroit pour contempler en fait la vue de Séoul et notamment la partie nord du fleuve de Han, Gangbuk. Et surtout parce que c'est un endroit où j'ai tourné en fait un de mes films. Alors Gangnam, donc cette partie du sud du fleuve Han est très connue pour ses grands buildings, ses grands appartements d'Anji. Et ici, Gangbuk, c'est justement l'endroit où toutes les lumières vont s'allumer donc quand le soleil va se coucher bientôt. Vous allez pouvoir voir toutes les lumières en fait de ces gens modestes de Séoul. Et aussi en fait ce lieu depuis environ 1000 ans, c'était un endroit donc qui a conservé le lait. Donc ici ça s'appelait aussi jusqu'à l'ère Joseon Taraksan, la montagne Tarak, et le mot Tarak en coréen signifie avec le vieux coréen le lait. La première fois que les Coréens en fait ont pu consommer le lait, c'est à partir des années 1960
simplement.
Donc là bientôt en fait je pense que le soleil va se coucher.
Quand on regarde le paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui, effectivement on voit toutes ces montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Coréens pour se dire qu'il fallait détruire un certain nombre de sites naturels pour pouvoir construire des buildings, pour pouvoir bétonner tout ça?
Alors tout simplement parce qu'en fait on est trop nombreux dans cette ville de Séoul, donc on est obligé en fait de détruire la nature pour construire des grands bâtiments, des grands buildings où les séoulites vont pouvoir vivre. Et oui, effectivement, de plus en plus en fait il y a des confrontations par rapport à des associations qui veulent protéger justement et préserver la nature, mais comme vous le savez en fait la Corée s'est développé très rapidement et cette idéologie est toujours omniprésente dans la tête des Coréens, c'est-à-dire ils pensent qu'on est obligé encore de se développer, d'aller vers le haut pour avoir une meilleure vie. On a l'impression qu'il faut en fait effectivement effacer toute cette nature et construire des nouvelles choses pour prouver au monde entier qu'on est en train de se développer perpétuellement. Et là, juste en face de nous, on voit ces immenses tanji, ces complexes d'appartements. Et ces appartements, ils ont été construits d'une manière assez violente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont perdu leur vie parce que quand les gros conglomérats ont décidé de lancer ce projet urbaniste, ils ont utilisé des moyens en forçant les gens en fait à quitter leurs habitations d'origine, c'est-à-dire ici il y avait beaucoup de petites maisons traditionnelles et les gros conglomérats sont venus et les ont chassés pour qu'ils dégagent d'ici. Ah, Yonna, c'est en fait son film donc White Knight a été filmé ici parce que justement la vue est juste surprenante et c'était tellement beau de voir Séoul de cette façon là que j'ai vraiment tourné donc un de mes films ici. Moi j'ai fait en sorte que dans mon film ce soit un lieu de rencontre de la communauté gay à Séoul et en fait ici c'est un passage justement où il y a deux gays qui se rencontrent et qui vont se promener et qui déambulent en fait dans cette ville Séoul et qui vont discuter.
한 명이 서울에서
Et notamment, il y en a un des deux qui a vécu une violence assez grave, hein, parce que justement, Séoul est aussi une ville qui justement rejette ces gays qui sont un petit peu pointés du doigt. Donc il a vraiment vécu une situation très violente et il en a vraiment beaucoup souffert. Et il raconte aussi cette expérience et notamment d'autres histoires personnelles à travers ce passage.
Pourquoi Séoul rejette la différence ?
En Corée, il y a un nouveau mot qui est très à la mode en ce moment, le mokosanisme. Et le mokosanisme, en fait, se base sur justement comment survivre jour après jour. Parce que justement, on vit dans une société où on n'a plus la possibilité de penser à prendre du temps, parce que c'est une société où tout va à 100 à l'heure, qui nous empêche en fait de prendre du bon temps avec la famille ou avec les gens qu'on aime, etc. Pas seulement justement la communauté gay LGBT, il y a aussi toutes ces personnes qui sont en retrait par rapport à la société. Et ben ces gens-là, en fait, on les rejette, on fait semblant de ne pas les voir.
Cha Jae-hoon, écrivain.
Moi, j'ai toujours vécu à Séoul. J'ai grandi dans le quartier de Gangnam. Aujourd'hui, c'est le quartier riche de la ville. Mais dans les années 70, il n'y avait rien. Juste de grands terrains vagues. Quand j'étais enfant, on s'y retrouvait pour jouer entre copains. On allait le plus souvent dans un endroit qui s'appelait le Rocher du Lion. Mais un jour, ce rocher a été détruit, englouti sous les nouvelles constructions en béton. J'étais là quand ils l'ont fait sauter à la dynamite. J'étais vraiment un petit gamin à l'époque et je me souviens en avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Tous mes copains étaient tristes parce que nous n'avions plus d'endroit où jouer.
Il me disait que je ne pouvais pas voir le rameur qui ramait sur l'eau bleue du fleuve Tuman. Mon père, qui disait avoir besoin d'un verre de soju, qui passait la nuit à pleurer, quand il se souvenait de la région de son enfance, me disait ainsi. Ce serait tellement bien si, avant de mourir, je pouvais y retourner, rien qu'une seule fois.
Je m'appelle Sané.
Vous avez commencé à chanter en racontant la douleur des exilés nord-coréens à travers cette chanson, La Guyot. C'est toujours d'actualité ou finalement les Nord-Coréens, on les a complètement oubliés?
Quand j'ai écrit cette chanson, ma mère me manquait beaucoup. Et j'avais envie d'écrire pour elle. Je l'ai toujours entendue chanter. Et c'était toujours en lien avec la ville où elle avait grandi, qui se situe actuellement en Corée du Nord. J'ai donc écrit cette chanson pour raconter son histoire. Mais j'ai vite compris que c'était également celle de beaucoup de Coréens. Aujourd'hui encore, la troisième génération reste nostalgique de ce passé et cultive avec émotion la mémoire de ces endroits perdus. Pour moi, comme pour la plupart des Coréens, la séparation des deux Corées, c'est une histoire douloureuse, traumatique, et personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. Entre le Nord et le Sud, il n'y a qu'un cessez-le-feu. La guerre n'est pas terminée. On a l'impression que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Ni les Chinois, ni les Américains, ni les Japonais ne souhaitent voir les deux Corées réunifiées. Et lorsque des agences de voyage vous proposent par exemple un tour sur la DMZ, la zone démilitarisée, c'est pour montrer aux touristes l'état toujours douloureux et dangereux de notre situation présente. Là, on est juste devant l'université Yunik de Hongdae. Comme vous pouvez le voir, les grands axes principaux sont parallèles et perpendiculaires à l'université et toutes les ruelles partent de ces grands axes en épi. C'est là que se situent toutes les nouvelles boutiques branchées qui sont le reflet de ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'architecture de cette université ?
C'est assez martial.
Moi, je trouve que cette fac, c'est un monstre. Comme toutes les universités en Corée.
Money.
C'est tout ce qu'elles cherchent. Regardez en face. Il y a la célèbre université coréenne de Yonsei. Et là, c'est pareil. Ils n'arrêtent pas de s'étendre verticalement et horizontalement. Aujourd'hui, les universités fonctionnent comme des entreprises. D'ailleurs, les dirigeants de ces universités sont étroitement liés au monde de la finance, à celui de l'économie et de la politique. Moi, je préférerais qu'il y ait devant les universités, non pas toutes ces boutiques de consommation à outrance, mais plutôt des librairies ou des bibliothèques. C'est trop dommage. Les jeunes ont été tellement mis sous pression depuis qu'ils sont entrés à l'école, et surtout au moment de passer le bac, qui est absolument indispensable pour rentrer à l'université, qu'une fois admis, c'est le grand soulagement, et la pression retombe. Du coup, ils se lâchent, et dès qu'ils sont étudiants, ils peuvent faire n'importe quoi. Et personne ne leur dit jamais non. Là, sur le chemin, on va passer devant un club qui a été le premier à incarner la scène de la musique indépendante à Séoul. Des lieux comme ça, il y en avait plein. Mais ils ont tous fermé les uns après les autres. Ce club est le dernier. Il résiste encore. Ici, on n'entend que de la musique coréenne des années 70. On y trouve tous les vieux 45 tours et plein de posters de groupes coréens de l'époque.
Alors, sur les murs de cet établissement, on peut voir les photos des Kimchi's qui ressemblent étrangement aux Beatles. Okay. On a les Phoenix, on a les Devils. Donc ça, c'est l'époque de la dictature militaire, tous ces groupes ?
70s.
Oui, oui, c'est les années 70.
Oh,
처음엔 한국은 이제 그 민주화 운동이 80년대 초반에 80년대 많은 이제 학생들이 거리로 나와서
Après, dans les années 80, beaucoup d'étudiants sont descendus dans la rue pour protester contre la dictature militaire. À l'époque, j'étais étudiant et nous étions révoltés contre le système politique militaire sud-coréen qui nous opprimait. Moi, je suis originaire de Busan. Quand je suis arrivé à Séoul, j'ai eu un choc culturel. Tous les médias étaient sous contrôle de l'État et toutes les informations étaient filtrées. C'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte en vivant en province. Et puis le pouvoir a compris qu'il fallait faire des réformes politiques et relâcher le contrôle sur la société. En 1988, la dictature militaire s'est effondrée et nous avons changé de régime et mis en place une vraie démocratie.
À
l'époque, moi, j'avais rien. Pas de boulot, pas d'avenir. J'étais un petit branleur avec les cheveux longs. Je vivais en marge de la société. J'avais tellement de haine. Je voulais être rocker pour exprimer toute cette haine contre la société. J'en voulais à la génération précédente qui m'a obligé à grandir dans cette société qu'ils avaient créée de toutes pièces. On peut retrouver toute cette colère dans mes chansons. Dans mon troisième album, je critiquais le gouvernement et ses grandes entreprises qui étaient responsables d'un certain nombre de catastrophes. Des ponts s'étaient écroulés, des immeubles également. Il y a eu énormément de morts. À cause de quoi ? Des dirigeants qui avaient mené les travaux trop rapidement, en dehors de toutes les règles de sécurité. C'est très révélateur d'une société dont le développement a été trop rapide. Mais à l'époque, pour dénoncer ça, je devais ruser. J'utilisais des mots à double sens, pour ne pas risquer de finir en prison.
Quartier de Daehan-ho.
C'est étonnant parce que quand on est arrivé dans ce quartier de Séoul, on nous a dit « Ah, ici vous êtes à Broadway. »
Ah non, je ne suis pas.
Hong Hee-yong, metteur en scène.
Mais pas du tout. On est loin d'être à Broadway. J'aimerais que ça soit le Broadway de Séoul, mais non. Ici, c'est le quartier de la scène underground. On est vraiment tout en bas de l'échelle. J'aimerais que ce quartier devienne la référence scénique pour les comédiens, mais on en est loin. Et pourtant, ça fait des décennies que nous jouons là. Quand on regarde la Corée du Sud, on dit qu'on est devenu démocrate grâce aux Américains. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes totalement sous l'emprise du système capitaliste américain. La génération de nos parents était tellement démunie après la guerre, ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient toujours derrière les Américains à demander de quoi survivre. « Give me chocolate, donnez-moi quelque chose à manger ». Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Les enfants mangeaient même la terre. Et ces enfants ont grandi avec l'idée que les Américains étaient leur sauveur, leur messie. Une fois devenus parents, ils nous ont éduqués dans l'idée qu'on devait tout aux Américains. Mais aujourd'hui, nous devrions pouvoir changer d'idéologie. Le problème, c'est qu'entre le Nord et le Sud, il n'y a qu'un cessez-le-feu. Nous sommes toujours en guerre. Nous devrions pouvoir dire aux Américains que nous n'avons plus besoin d'eux. Mais pas du tout. Et aujourd'hui, il n'y a que des gens comme nous, tout en bas de la pyramide, des artistes fauchés, installés, comme vous le voyez, dans une petite salle minable qui essaient de faire des choses. Mais malheureusement, c'est très difficile, car je dois avouer que cette mentalité américaine et capitaliste est même ancrée en moi. J'ai du mal à l'admettre, cela me fait honte, mais c'est la réalité.
Je suis en train de vous faire un petit dessin pour vous montrer le schéma de la répartition économique idéale selon moi, c'est-à-dire avec une classe moyenne majoritaire. Alors que dans la société coréenne actuelle, il y a beaucoup de riches, beaucoup de pauvres et très très peu de classe moyenne. Quelle que soit la couleur politique du gouvernement, le message reste le même. Faire du fric et du business, se développer encore et encore. Mais aujourd'hui, le petit peuple n'a plus les moyens. Il s'endette auprès des banques. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse dramatiquement. Regardez toutes ces pubs qui pullulent à la télé ou dans les journaux pour des prêts bancaires. Beaucoup de gens vivent maintenant dans le surendettement. Et c'est vrai qu'on est parti de tellement bas, on était tellement pauvres que les gouvernements successifs n'ont eu qu'un seul mot à la bouche, le développement économique. C'était l'unique objectif. Et on a réussi, mais on a délaissé tous les autres enjeux. Aujourd'hui, la Corée du Sud appartient à l'OCDE. Mais le taux de suicide y est un des plus élevés au monde. Les accidents de la route provoquent des hécatombes. Notre taux de fécondité est l'un des plus bas de la planète. Si les pauvres se mettent à descendre dans la rue, on risque bien d'aller vers une révolution.
Moi, j'ai 27 ans. Je suis devenu SDF quand mes deux parents sont morts. Ils avaient beaucoup de terrain, mais aussi beaucoup de dettes auprès des banques. L'État m'a tout pris et moi, je me suis retrouvé à la rue. Et aujourd'hui, j'arrive même plus à trouver un petit boulot comme je pouvais en trouver quand j'étais plus jeune. Déjà à l'époque, quand je trouvais un job dans une station-service, par exemple, je devais trafiquer mon CV pour dire que j'étais étudiant. Et ça, ça marchait. Mais aujourd'hui, je suis fiché directement sur le registre national. Ça veut dire que toutes les boîtes savent que je suis SDF quand elles tapent mon nom. Et donc, j'arrive plus à trouver de travail.
C'est-à-dire qu'à 27 ans, votre avenir s'arrête ?
En fait, si tu cherches un petit boulot journalier, t'as pas besoin de diplôme. Mais si tu veux trouver un job de vendeur, même dans une petite boutique, tu dois en avoir un. Parce qu'il y a tellement pas de boulot que la concurrence est rude. Le pire, c'est dans les grosses boîtes, les chaebol comme Samsung ou LG. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui obtiennent leur diplôme comme le brevet ou le bac en passant par des instituts privés. Moi, je pourrais le passer en candidat libre, mais je le fais pas parce que je veux pas faire mon service militaire.
Et alors comment vous envisagez votre avenir à 27 ans ?
Quand j'étais petit, j'ai eu une enfance assez douloureuse. Mes parents s'engueulaient tout le temps. Le rêve de mes copains, c'était peut-être de devenir président de la République, Mais moi, je rêvais que d'une chose, fonder une famille et avoir une vie normale. Mais même ça, je ne l'ai pas réussi. Une fois, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai changé de rêve. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir vivre correctement au jour le jour. Si j'arrive à trouver du travail sur un chantier à 80 euros par jour, et que je travaille 2 ou 3 jours par semaine, j'arrive à gagner à peu près 200 euros. Et ça me suffirait pour vivre. Mais j'ai une sœur et j'ai aussi un frère que je dois aider. Ma sœur, elle a 26 ans et elle a un bébé. Et mon petit frère est actuellement au service militaire. Quand je gagne 200 euros par semaine, j'arrive à envoyer entre 50 et 100 euros à ma sœur pour qu'elle puisse nourrir son bébé. J'ai pas de téléphone portable parce que je veux pas qu'elle m'appelle tout le temps. Si j'en avais un, elle passerait son temps à m'appeler pour savoir si tout va bien, où est-ce que je dors, est-ce que je mange assez. Et je veux pas lui causer de soucis supplémentaires.
Est-ce que aujourd'hui vous pensez que les jeunes se disent on va pas faire d'enfants parce que quand on sera vieux, nos enfants ne s'occuperont pas de nous, et que c'est une raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes couples font de moins en moins d'enfants justement?
Effectivement, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants, mais c'est surtout à cause du coût de l'éducation qui est exorbitant en Corée. J'ai entendu dire qu'il faut débourser 300 000 euros pour éduquer un garçon et 500 000 euros pour une fille. Du coup, les gens font un seul enfant ou deux max, et beaucoup choisissent de ne pas en avoir du tout.
Kim Kenan, ancien journaliste et haut fonctionnaire.
En Corée, les hommes politiques ont un pouvoir tout relatif par rapport à ceux qui dirigent les chaebol, les gros conglomérats qui, eux, ont un pouvoir absolu. Pour atteindre l'objectif d'un développement économique rapide, le gouvernement a été contraint de donner un certain pouvoir à ces conglomérats. Ils l'ont pris ce pouvoir, et aujourd'hui, ce sont des monstres qui incarnent la société coréenne.
Vous parlez de monstres, on a l'impression que Séoul, c'est Samsung City.
Moi, je préfère parler des quatre grandes chaebol qui font la pluie et le beau temps en Corée. Samsung, Hyundai, SK et LG. Qui ont tellement de pouvoir que leur chiffre d'affaires est largement supérieur à celui des 46 autres conglomérats réunis. C'est vrai qu'on peut penser que Séoul, c'est Samsung City. Si vous allez faire un tour du côté de la station de métro Gangnam, il y a tout un quartier qui a été construit par Samsung. Et si vous allez vers Ioido, vous trouverez aussi des quartiers entiers construits par le groupe LG. Le problème, c'est la succession au sein des familles qui possèdent cette chaebol. On assiste alors à ce qui se passe au sein des familles royales. Tout le monde souhaite que ça change, mais en même temps, les Coréens ont peur de voir l'économie s'effondrer si on réforme ces chaebol. Vous comprenez le danger qui pèse sur la Corée? Un pays dont le pouvoir économique repose uniquement sur les épaules de quatre familles. Ah!
Bonjour, je m'appelle Chusok. Je suis producteur et rappeur ici à Séoul. La chanson que vous écoutez s'appelle Vétéran. C'est une critique violente que je fais à l'égard de la corruption du monde politique et de ses liens avec les grands conglomérats. C'est eux qui sont responsables du creusement des inégalités sociales. J'ai commencé à faire du hip-hop à la fin des années 90. À cette époque, ça n'existait pas en Corée. Et puis, il fallait adapter cette culture américaine à la réalité coréenne. C'était difficile. Dans le rap américain, on parle de crimes, d'armes et de drogue. Mais en Corée, on n'a pas d'armes et pas vraiment de drogue non plus, parce que ça peut coûter très cher. Tous les jours, dans les journaux, on lit que des gens se font arrêter uniquement pour avoir fumé de la marijuana et qu'ils sont incarcérés pour ça. Du coup, nous, on ne peut pas jouer les bad boys comme les rappeurs américains. Moi, ce que je raconte, c'est la vie quotidienne de mon quartier et de cette ville qui m'inspire. Au début, je souhaitais vous donner rendez-vous devant le stade Dongdaemun. Mais en fait, il a été détruit, remplacé par un immense shopping mall. Pourtant, c'était un lieu très symbolique, un vieux stade de baseball où jouaient toutes les ligues de jeunes joueurs. Mais voilà, il n'existe plus. C'est comme si on se coupait de notre propre identité. Je déteste par exemple toutes ces nouvelles constructions qu'il y a un peu partout dans la ville. Elles servent uniquement à montrer au monde que nous sommes un pays développé version high-tech. Mais en agissant ainsi, on efface toutes les traces du passé. À chaque fois qu'une équipe nouvelle arrive au pouvoir, la ville change. Chacun veut laisser sa marque. Tous les 2-3 ans, on construit et déconstruit. Comment préserver alors notre identité, notre culture? Nous devons garder les choses du passé. On saute trop vite les étapes dans cette ville. On passe du stade 1 au stade 14 du jour au lendemain, comme ça. Je ne crois pas que ce soit bon, que seules ces nouvelles constructions incarnent l'image de marque de Séoul.
Regardez là en face, justement, le nombre de croix rouges qu'on voit en face. J'ai entendu dire que Séoul, c'était la ville où il y avait le plus de croix. Ce qui est assez étonnant, justement, après la guerre, avec le régime militariste, justement, il y a cette naissance effervescente de la religion chrétienne. Donc le protestantisme est omniprésent aussi dans cette culture coréenne actuelle. Et malheureusement, en fait, ce côté religieux a été, à mon sens, mal interprété. Parce que justement, les gens en fait vont souvent prier à l'église pour la réussite, par exemple, de leur fils, pour que le business marche mieux. Donc, c'est pas dans un but de recherche en fait vers la foi.
Alors, quand on regarde le paysage en face de nous, effectivement, il y a toutes ces croix. On dit que Séoul ressemble la nuit venue à un grand cimetière de croix rouges. Ce cimetière symbolise la fin de quelque chose.
C'est le désir, c'est ce désir obsessionnel de vouloir réussir et d'avoir beaucoup d'argent. Toutes ces croix rouges, justement, ce sont des gens en fait qui espèrent un jour pouvoir être riches via la religion. Et d'un autre côté, ça reflète aussi l'image vraiment des gens qui sont mis à l'écart de la société. Ces gens pauvres qui ne savent pas où aller et qui ont besoin en fait de se reposer sur quelque chose et qui ont besoin d'une épaule. Et ben justement, ces gens-là, ils vont se tourner vers ces églises.
Chaque
C'est assez paradoxal parce que quand on se promène à Séoul, on voit toutes ces églises évangélistes, on ne voit pas de cimetière, ils sont où les morts ?
Shin-Soo Won, cinéaste.
Eh bien, derrière chez moi, il y a une montagne avec des tombes, mais je crois que le terrain appartient à un particulier et qu'elles sont là depuis très longtemps. Il n'y a plus de cimetière à l'intérieur de Séoul à cause du prix des terrains. C'est beaucoup trop cher. Il ne reste aujourd'hui à Séoul que les deux cimetières nationaux réservés aux héros de la nation qui ont donné leur vie pour le pays. Mes parents sont décédés et ils sont enterrés dans un cimetière proche. Récemment, on m'a demandé de les mettre ailleurs parce que le terrain allait être vendu pour construire à la place des immeubles d'habitation. Je vais donc devoir déménager les tombes de mes parents. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais moi je pense que finalement, parmi toutes ces églises, il y en a très peu qui sont de vraies églises prêchant le message de Dieu. Quand j'étais petite, j'habitais dans un quartier très modeste. Et dans l'église où j'allais, le prêtre nous distribuait des carrés de tofu parce que nous étions vraiment démunis. Nous n'avions rien à manger. Et puis c'est lui qui emmenait les personnes âgées voir le médecin quand elles n'avaient pas les moyens. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Johan, architecte.
Vous savez, nous les Coréens, on a fortement besoin de croire en quelque chose. Toutes les églises que vous voyez sont des églises protestantes qui se sont bâties sur le modèle du gigantisme. On construit des églises monumentales pour pouvoir accueillir le plus de monde possible, afin de récolter le plus de dons possible. C'est comme ça que les églises s'enrichissent. La plupart d'entre elles font d'énormes emprunts auprès des banques pour pouvoir bâtir ce genre d'église. Parfois, ça ne marche pas et certaines font faillite, alors que le chantier n'est pas encore terminé. Mais quand ça marche, on se retrouve alors avec ce qu'on peut voir partout dans Séoul, c'est-à-dire d'énormes complexes d'églises avec écrans géants pour que tous les fidèles puissent suivre les prêches. Ici, les églises ne sont pas imposées sur les dons qu'elles perçoivent. Mais aujourd'hui, le gouvernement souhaite les imposer, parce qu'on commence à voir des églises à tous les coins de rue. Mais toutes les nouvelles églises sont contre ce projet.
Vous savez, en Corée et notamment à Séoul, ceux qui fréquentent les églises sont essentiellement des personnes âgées, des grands-pères, des grands-mères. Ça reflète bien l'image de notre société qui rejette ces personnes dans la solitude. Elles n'ont plus d'endroit où aller, elles ne parlent plus et ne se confient plus à personne.
Baby, come back.
Hey, yo, Charlie. Drop
it on me.
Cha-jae-hoon, écrivain. Je vais vous emmener au Minelba, le café le plus ancien du quartier Sincheon. Il a ouvert en 1975. Alors, ça doit vous faire bizarre, vous qui habitez Paris et qui avez des cafés qui sont très très anciens. Mais nous, à Séoul, le très très ancien, c'est 1975. Dans un quartier comme celui-là qui ne cesse de se transformer, avoir un café qui a ouvert il y a 40 ans, c'est du jamais vu. Il y a eu bien sûr plusieurs propriétaires, mais qui tous ont décidé de préserver l'atmosphère et le nom d'origine du café.
Alors, donc, on est dans le café Minerva. Et on voit sur la carte de la maison que c'est un lieu où il y a de la musique classique et du romantisme et surtout une culture très ancienne. Donc on vous accueille ici dans ce café. Merci de créer de jolis souvenirs pendant que vous êtes ici. Donc merci de ne pas faire trop de baisers ou de se montrer trop en public. En s'enlaçant entre couples et en faisant des bisous, ce genre de choses.
Et pourquoi ?
Parce que c'est ici, on est dans un café où il y a de la musique, du café, et c'est un lieu de conversation.
Alors, Choi Jae-hoon, vous veniez ici quand vous étiez étudiant ?
Oh, bien sûr. Comme vous l'avez dit, ici, en 1975,
oui, j'étais étudiant dans ce quartier au début des années 90. À l'époque, nous n'étions pas nombreux à venir ici, justement parce qu'il y avait cette ambiance. Et ce qu'Aram vient de vous lire sur ce menu n'est que le résultat de la culture confucéenne, de cette éducation qui dit que les hommes ne doivent pas pleurer en public, que les savants ne doivent pas rire devant les autres, qu'il faut savoir se tenir. Mais tout ça est en train de changer. Aujourd'hui, les jeunes osent plus se montrer. Ils expriment beaucoup plus leurs sentiments. Mais ici, la règle reste toujours la même. Et le propriétaire veille au grain. On n'exprime pas ses sentiments amoureux en public parce qu'ici, on peut à la fois trouver des vieux et des jeunes. Et il ne faut brusquer personne. En même temps, la culture confucéenne qui impose cette retenue dans l'expression des sentiments est aujourd'hui responsable de beaucoup de tensions et de frustrations dans les relations humaines. C'est ce qui explique sans doute l'apparition des nouvelles formes de criminalité. Beaucoup de crimes aujourd'hui sont commis par des gens qui n'arrivent plus à contrôler leurs émotions. Une petite altercation peut se transformer en un meurtre sanglant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disjonctent et qui descendent dans la rue tuer la première personne qu'ils vont croiser sur leur chemin. On ne voyait pas ce genre de choses avant. Mais avec le développement économique et le creusement rapide et profond des inégalités, les gens n'arrivent plus à contrôler leurs pulsions.
Dans cette société pyramidale, les gens qui se retrouvent au bas de l'échelle savent qu'ils ne pourront jamais s'élever socialement malgré tous les efforts. Face à ce constat, ils en arrivent à des décisions extrêmes, le suicide ou le meurtre. Au moment de la crise économique de 1997, on a repêché 99 corps entre les ponts Wanyu et Winju. Vous imaginez l'état de détresse ?
14 ans, Incheon-gu Paesong-gu-eseo, 살인사건이 있었어. 피해자는 전남과 주위. 피해자의 아들과 용의자의 딸은 같은 반이었어. 용의자였던 내연녀의 자살로 사건은 미국을 맞았지.
약간 좀 독특한 곳을 되게 좋아하는데 영화 소재하고 잘 닿아야 되는데 아직은 계획이 없는데 이번에 찍은 곳은 이번에 찍은 거 얘기할게.
Moi, j'aime les lieux atypiques. C'est pour ça que j'ai voulu tourner mon dernier film dans le quartier de Kalibodong. C'est un endroit que je connais très bien, mais qui est devenu très dangereux depuis l'installation de ces triades chinoises. Quand j'ai voulu y tourner, il fallait absolument qu'on soit protégé par la police. Il y avait des affiches partout qui prévenaient les passants parce qu'il y avait eu un meurtre. C'est un quartier dans lequel j'avais l'habitude d'aller quand j'étais prof. C'était calme à l'époque, mais aujourd'hui, avec toutes ces prostituées, ça fait très slum.
Alors ici,
on est à Jongno Samga. Donc c'est l'avenue centrale en fait des gays. Là en fait il fait un peu froid et en plus c'est la nuit, mais pendant les beaux jours, vous voyez ces petits restaurants sous bâche des deux côtés de la rue, voilà. Et il y en a en fait des centaines, et du coup il y a même plus de 1000 gays qui se retrouvent ici ensemble pour boire des verres ensemble. Alors de l'autre côté, en fait, on a le parc Jongmyo. Et le parc Jongmyo, en fait, pendant la journée, c'est le lieu en fait où il y a les personnes âgées. Les papis en fait viennent pour rencontrer en fait des prostituées femmes âgées. C'est-à-dire que en fait, c'est des mamies qui vendent leur corps pour survivre. Alors qu'on est dans un quartier où juste à côté il y avait le palais royal Gyeongbok, et ici avec le développement économique de la ville après la guerre, cette zone était vraiment une zone de prostituées. Donc jusqu'en 1968 c'était rempli de prostituées.
1968년도에 그 군사 쿠데타로 대통령이 된 박정희가.
Et donc en 1968, il y a eu un coup d'État en Corée, et à cause de ce coup d'État, le président de l'époque a décidé comment on peut avoir une zone de prostituées juste en dessous de ce palais royal ancien. Donc il a décidé de tout enlever et il a fait en sorte que toutes les prostituées donc migrent dans un autre quartier à côté, plus loin, qui s'appelle Miari. Et ici, donc, du coup, c'est devenu une zone complètement inhabitée. Et c'est comme ça, petit à petit, où la communauté gay a commencé à s'installer. Et ils ont commencé à ouvrir des bars ici. Par exemple, vous voyez justement juste un petit panneau Villa M ou Libellule. Et tous ces noms-là, en fait, ce sont des mini bars gays. Alors ici en fait on se trouve devant un bâtiment où avant il y avait donc le cinéma Pagoda, et donc c'était vraiment la Mecque des lieux de rencontre dans la communauté gay. C'est vraiment un lieu mythique parce que il y a un poète très connu coréen qui n'avait jamais fait son coming out et qu'on a retrouvé mort en fait dans cette salle de cinéma. Il est mort, à votre avis, donc il est mort d'une crise cardiaque. Hein. Et aussi, il y a eu des cas où, par exemple, le père et le fils se sont retrouvés dans la même salle de cinéma. Il y a eu pas mal de choses, c'est vraiment un endroit mythique pour la communauté gay. Alors là, on se trouve dans une petite ruelle où on a ces chambres minuscules qui ressemblent en fait à des cercueils. C'est aussi grand qu'un cercueil. Et par exemple, l'été, quand on vient ici, on peut voir en fait des vieilles femmes qui sont assises devant chaque porte de chambre et elles sont en train d'attendre la clientèle. Et ces chambres-là, en fait, elles coûtent environ 5000 won par nuit. Donc 5000 won, ça correspond même pas à 5 euros. Et ce sont maintenant des gens qui viennent, qui n'ont pas les moyens de vivre, qui n'ont pas de maison et qui viennent passer une nuit ici. Et en tout cas, l'été, c'est vraiment le lieu où les vieilles femmes, du coup, se prostituent. C'est petit ici. Regardez en fait la taille de la porte et à quelle distance les unes sont collées aux autres. Et vous pouvez donc imaginer ici donc la superficie de cette chambre.
Qu'est-ce qu'on dit d'une société où les vieilles dames sont obligées de se prostituer pour survivre ?
Effectivement, je vous disais que dans le quartier de Namsan, il y avait des transsexuels qui vendaient leur corps. Et notamment, il y avait aussi des jeunes femmes qui vendaient aussi leur corps près de Namsan et aussi de Yangdeungpo. Et en fait, ces femmes, maintenant, étant donné que la prostitution est interdite dans la société actuelle coréenne, ces femmes, elles n'ont nulle part où aller. Et surtout, elles ont pris l'âge. Donc maintenant, elles sont devenues vieilles. Elles ne savent pas où aller. Et en fait, c'est un phénomène de la société où on appelait ces femmes les pakas ajumma. Pakas, c'est une boisson revitalisante qu'on a l'habitude de boire en fait en Corée et en fait on les appelait comme ça parce que justement c'était des femmes qui avaient en fait l'habitude de se promener en fait avec cette bouteille à la main et cette boisson en fait était un signe entre les gens qui cherchaient justement des prostituées d'un certain âge et maintenant elles ont entre 60 et 70 ans ou un peu plus. Elles ne savent pas où aller, donc elles viennent dans ce parc retrouver en fait des clients, souvent des vieux papis célibataires. Et du coup, elles font ce marché d'une manière très discrète. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on regarde la carte de Séoul, quand on la plie une fois en horizontale et une fois en verticale, le point central est ici. C'est vraiment donc un endroit très paradoxal, étant donné qu'au-dessus de cette avenue, on a donc le quartier de Palais Royal, et de l'autre côté de l'avenue, en fait, on a justement un endroit où toute la modernité de Séoul se trouve, notamment l'Assemblée nationale et aussi des grosses banques. Et là, en plein milieu de ces deux quartiers, on a en fait cette avenue où justement il y a les gays et de l'autre côté où il y a des vieilles femmes prostituées. C'est plein de paradoxes.
Merci à Kim Kenan, Kang Sané, Chu Sok, Lee Song Il, Shin Soo Wong, Choi Jae-hoon, Jo Han, Hong Hee-yong et Baek Seung-chol. Un grand merci également à Aram Kim, notre infatigable traductrice, à Hachi Hirofumi et à Celia Parigo. Merci enfin aux Instituts français de Paris et de Séoul et à l'année France-Corée pour leur aide précieuse. Avec les voix d'Olivier Blond, Tanguy Blum, Vincent Barboulet, Renaud Danner, Vivien Demeyer, Anne Franchini, Raphaël Kraft et Yasmine Modestine. Séoul Blues, prise de son Laurent Macchietti à Séoul et Bernard Laniel à Paris. Mixage Delphine Baudet, réalisation Céline Terce. Coordination Catherine Libert, Une Ville Monde d'Alain Lefkovitch.
Continue sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter éternellement en podcast Ville Monde, Séoul et toutes nos escales à travers le monde. Après Séoul Blues, direction la mer du Nord et une ville sur l'eau, le port et les ponts d'Amsterdam, le pont bleu et les autres. Amsterdam, Ville Monde, première escale, dimanche prochain 3 avril à 15h.